Donc, bienvenue à tous. Et d'abord, je crois qu'il faut remercier la librairie Mola et puis M. Mola de nous accueillir, parce qu'on est en pleine rentrée littéraire, donc il y a plus des livres ou des romans ou de l'actualité littéraire qu'une actualité qui est plutôt technique et qui concerne le monde des infirmières et le monde du soin. Donc c'est gentil de nous laisser une place parmi les auteurs. Et donc on est très honorés d'être ici. C'était aussi le moyen d'être en ville et d'être à la fois à l'université, au CHU, à l'Institut Bergonnier, et de regrouper un peu en ville entre nous, dans un endroit qui est très élégant, avec des lustres hollandais qui sont quand même impressionnants, d'être entre nous pour, en premier lieu, remercier tous ceux qui ont galéré pour écrire quelque chose qui est difficile et qui associe une cinquantaine de contributeurs qui sont aussi de métiers différents et qui sont tous regroupés dans le même monde qui est celui du soin. Je voulais excuser mon directeur qui n'a pas pu venir parce qu'il est à la convention des centres, ainsi que le directeur général adjoint, M. Filatro, qui a aussi beaucoup soutenu ces temps. Je voulais saluer et pour leur intérêt et les remercier de leur visite, les doyens, mon collègue René Daumant, qui est aussi à l'université et qui s'occupe beaucoup du monde paramédical. Il m'avait dit, il y a 20 ans, je l'avais rencontré, il m'avait dit, tu verras, c'est un monde merveilleux, et j'ai appris à parler aux femmes. Et j'avais trouvé ça, cette description du monde du soin, qui est un peu trop liée à un genre, maintenant, ça se fait pas de dire des choses pareilles, mais relever quand même aussi d'une relation et d'une découverte, d'une volonté de travailler avec d'autres professionnels et de travailler très précisément avec eux dans un monde qui était plus égalitaire que ce monde très hiérarchisé qu'est le monde médical. Alors, je voulais aussi remercier Gabriel, que j'ai eu le plaisir de rencontrer pour la première fois à la gare tout à l'heure, gare Saint-Jean. On s'est reconnu immédiatement, on savait qu'on allait se retrouver à cet endroit-là, qui est un des endroits les plus improbables de la sortie de la gare de Bordeaux. Et on s'est reconnu tout de suite parce que ça fait quand même 4 ans qu'on communique pour galérer ensemble sur ce travail qui est difficile. Et lui m'a toujours très, très facilement rassuré en me disant « t'inquiète pas, tu comprends rien, mais t'es pas le seul ». Le système est vraiment trop difficile sur la compréhension. On découvrait les compétences, ce monde des compétences, qui est très connu du milieu infirmier, mais enfin qui a été quand même écrit et un peu mis sur le marbre à partir de 2008 par Mme Coudray. Et donc on découvrait tout à coup un monde nouveau qui était celui des compétences, un changement de programme qui a été très important pour le monde du soin pour les infirmières à partir de 2009, avec aussi un contexte plus de processus que de pathologie. Je crois qu'on s'en est pas encore complètement remis et je suis pas sûr qu'on s'y remette, qu'on s'en remette. Et donc je voulais remercier Gabriel d'abord de sa confiance et puis ensuite de la liberté de son échange. Gabriel Perlémutter, c'est Gabriel et Perlémutter. Donc c'est un peu comme les très grandes et très vieilles maisons, c'est Perlémutter et fils. Parce que tous ceux qui ont travaillé comme infirmières ou comme médecins se sont nécessairement avalés au moins un Perlémutter depuis 46 ans. Donc c'est un livre qui est le livre des infirmières, ça s'appelle le cahier des infirmières, mais nous on s'est payé les perlémutaires en anatomie et en endocrino, et on a aussi souffert sur ces bouquins qui avaient la volonté d'être complet, précis, admirablement écrit, et qui étaient là pour nous aider et qui nous impliquaient directement. Donc c'est pour moi un grand honneur d'accueillir aussi Gabriel Perlémutter et quelque part aussi de l'associer à son père, que je ne connais pas, qui nous a corrigé des trucs malgré ses difficultés de santé, qui a économisé ses corrections mais qui sont diaboliquement pertinentes. Et Dalila Abdelwaraman, qui avait participé, qui est l'éditrice, qui a fait le support technique, a dit « méfiez-vous des remarques de Léon Perlémutter ». Parce que quand elles sont là, il n'y a personne qui les a vues avant, et celles-là, on ne peut pas les contourner. Donc, je me permettais de faire un petit hommage à Léon Perlemutter. Alors, comment on va procéder? On va se parler un petit quart d'heure. Toi, tu vas nous parler plutôt des éditions scientifiques, de ta conception de la collection, de l'édition médicale pour les infirmières. Valérie, qui a été la chef d'orchestre ou la conducteur de travaux, je ne sais pas comment on peut dire, c'est que dans un chantier complexe, il y a quelqu'un qu'on ne voit pas, mais qui te gère, t'articule les gens, trouve le bon spot au bon moment. C'est le conducteur de travaux. Il n'est pas architecte, il n'est pas non plus à la rédaction de tout, mais il te fait que le système devient cohérent, que la complication va disparaître. Et puis moi, je me permettrai de parler... Alors, donc Valérie nous parlera plutôt du bouquin. Et puis moi, je me permettrai de parler ensuite de la suite, c'est-à-dire de l'évolution du métier. Et puis là, je me lie à nos deux directrices d'IFSI, puis maintenant responsables de la coordination infirmière qui s'appelle le CEFIEC, et qui nous ont aussi, avec qui on a toujours beaucoup travaillé par rapport à la veille sur l'évolution du monde du soin, en particulier de la profession infirmière. Gabriel, je te passe la parole.
Avec plaisir. Bonjour, merci pour cet accueil. Effectivement, quand Guy m'a appelé, m'a dit « on va présenter les ouvrages chez Mola, est-ce que tu veux venir ?» Donc immédiatement, j'ai répondu présent. Je trouvais que c'était une bonne occasion pour vous rencontrer, pour rencontrer Guy, parce que c'est uniquement par téléphone qu'on a travaillé. Même si on a bien travaillé, c'est toujours bien de se voir. Ouais. Et donc, merci pour cet accueil et puis merci pour cet hommage. Je voudrais vous parler un peu de la collection des cahiers des sciences infirmières. Donc, elle est neuve, mais en même temps, elle est vieille, puisque papa avait commencé à écrire pour les infirmières il y a longtemps. Je pense que j'étais même pas né dans les années 60. Et c'est la toute première collection, en fait, pour les infirmières. S'appelait la collection des cahiers de l'infirmière. Et à l'époque, je les ai vus, c'était une collection en fait qui était originale parce que c'était la seule pour les infirmières, donc c'était une collection novatrice et qui était déjà, je pense, très moderne parce que quand on prend les cahiers aujourd'hui, on retrouve la même notion sur le fond, pas sur la forme où les couleurs changent évidemment, la typographie change, mais les mêmes notions, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut savoir. Les points clés spécifiquement dédiés aux infirmières pour qu'il y ait vraiment toute cette pédagogie de la collection des cahiers de l'infirmière qui fasse que la collection fonctionne. Donc pendant longtemps, au moins 20-25 ans, cette collection des cahiers de l'infirmière a fonctionné. C'est avec une trentaine d'ouvrages. Et puis, pendant ce temps-là, moi, j'ai fait mon petit chemin, j'ai fait médecine, et puis ça, j'ai été enchanté. Et puis, arrivé interne, on est jeune interne, on a des idées plein la tête, et s'est trouvé une réforme des études infirmières à ce moment-là. Et donc, les cahiers de l'infirmière vieillissant, la réforme arrivant, moi arrivant médecin, papa m'a proposé qu'on démarre ensemble une nouvelle collection qui s'appelait, de façon très originale, les nouveaux cahiers de l'infirmière. Voilà, qui collait bien à la nouvelle réforme, ce qui était très bien, parce que je pense que les réformes, ça permet de se moderniser, de faire des nouvelles choses, de se remettre en question. Et donc moi, j'avais un peu peur, j'étais jeune interne, et puis comment on allait écrire, j'avais jamais fait ça. Et puis j'ai pris un groupe d'internes, copains, et puis on s'est mis à écrire ensemble, et on a fait ensemble, sous l'impulsion de papa. Et l'originalité de cette nouvelle collection, c'est qu'il y avait la participation dans le comité de direction de cadres infirmiers, ce qu'il n'y avait pas avant, ce qui montre que les infirmiers commençaient à s'impliquer dans la pédagogie et dans l'écriture. Pas encore beaucoup de monde, parce que je me souviens très bien, on avait fait un appel d'offres, on avait envoyé ça à toutes les IFSI de France, qui veut venir écrire avec nous? Ça fait beaucoup, toutes les IFSI de France. On a eu deux réponses positives, ce qui fait pas beaucoup quand même. Surtout que les auteurs, papa était connu avec les cahiers de l'infirmière. Et donc on a fait affaire avec la collection des nouveaux cahiers de l'infirmière, et la collection s'est montée, était très belle, s'est bien vendue, était appréciée par tous les étudiants et correspondait au nouveau programme. Et là-dessus, moi, j'avais, quand j'étais étudiant en médecine, aussi des idées. J'avais un bouquin dont j'avais rêvé. Il y avait le Dos Rose qui existait quand j'étais étudiant en médecine. Et puis, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de livre de thérapeutique. Et donc, arrivé interne, j'ai commencé à écrire toujours sur l'impulsion de mon père. C'est difficile d'écrire tout seul, hein, au départ, quand on ne connaît pas les éditeurs. Le guide de thérapeutique. Et avec ces idées, papa m'a dit, il est très bien ton guide de thérapeutique, il faut le faire pour les infirmières. Et donc c'est comme ça que le guide a été décliné, que vous pouvez le voir ici, maintenant la 4e édition qui vient de sortir. Le guide pratique de l'infirmier, c'est pas un guide de thérapeutique parce que les infirmières ne prescrivent pas encore, mais c'est un guide où il y a toutes les pathologies et toute la pharmacopée à l'intérieur et qui existe également sous forme d'applications iPhone, iPad, Android, tout ce que vous voulez. Voilà. Et puis en 2008, ça faisait 20 ans, 15-20 ans que la collection des nouveaux cahiers de l'infirmière existait. Une nouvelle réforme, alors là c'était vraiment le coup de tonnerre, l'arrivée des processus, et puis on décide de faire rentrer les infirmières dans la réforme LMD. Donc moi je trouve que c'est une excellente idée, en termes de pédagogie, pour la formation des infirmiers. Et donc, il y a eu cette réforme, et dans le cadre de la réforme, on arrête la collection des nouveaux cahiers de l'infirmière et on en fait une autre pour coller au nouveau programme. Un programme par processus, qui est plus ou moins déstabilisant, et un programme où moi, je ne suis toujours pas convaincu, peut-être ai-je tort, un programme pour complètement scinder à mon avis de façon artificielle, la profession des infirmiers de la profession des médecins. Donc ces deux professions, on est complètement différentes, on est d'accord, mais quand même qui se font des bisous à l'hôpital pour pouvoir améliorer la qualité des soins. Et là où la réforme me perturbe, c'est dans les processus. Alors dans le cahier de guide dont Valérie va vous parler, cette déclinaison par processus, on ne la voit pas bien. Avant, c'était un cahier de cancérologie. Maintenant, c'est un cahier de processus tumoraux. La différence n'est pas énorme. Mais quand, dans les autres spécialités, vous avez des étudiants soins infirmiers qui viennent dans votre service, vous devez les former à l'hépato-gastro-entérologie, à la cardiologie, à la pneumologie ou que sais-je, ça n'existe plus. On vous parle de processus obstructif, processus dégénératif. Et là, moi, je m'y perds, parce qu'un processus obstructif en gastro, c'est une occlusion, par exemple, c'est une occlusion biliaire, c'est une occlusion colique, mais c'est aussi une occlusion coronaire en cardiologie. Et tout ça, c'est le même processus. Et donc, pour l'écriture des ouvrages, on est perdu. Et pareil pour les insuffisances ou les dégénérescences. La dégénérescence de la maladie d'Alzheimer, c'est classé comme la dégénérescence du pancréas, pancréatite chronique, dégénérescence. Et donc là, on cherche tellement à s'éloigner du mécanisme, de la physiopathologie des maladies et même du soin des patients que je ne suis toujours pas convaincu par cette réforme. Et ça sera bien d'échanger avec vous ensemble pour voir comment vous la voyez. Voilà. Et pour arriver maintenant au cahier de cancérologie, donc on s'y est mis, de processus tumoraux, il y a 2 ans, je pense. Moi, je suis vraiment époustouflé par cet ouvrage qui est d'une grande qualité, qui dépasse largement les connaissances que doivent connaître les étudiants en soins infirmiers, qui a été écrit par, Valérie vous le dira, plus d'une cinquantaine de personnes, donc une organisation vraiment extrêmement lourde. Donc, voilà. Et je pense que le message qui doit passer à travers ce cahier, c'est faut pas, pour les étudiants en soins infirmiers, les affoler, faut pas tout savoir s'il y a dedans, mais c'est un cahier, je pense, qui est indispensable dans la pratique des étudiants en soins infirmiers quand ils vont apprendre les processus tumoraux, quand ils vont exercer. Première cause de décès, ça va maintenant être les tumeurs et plus les maladies cardiovasculaires. Ils vont forcément être confrontés du fait de l'incidence et de la prévalence des cancers à ce type de patients, et donc faut transmettre le message que c'est pas parce que le cahier est gros qu'il doit faire peur, que c'est un cahier de référence et qu'il doit être lu et, à mon avis, acheté pour avoir, pour travailler dedans par les étudiants et pas seulement par les formateurs en IFSI. Voilà, en tout cas, je voulais vous remercier pour l'accueil qui m'a été réservé ici.
Bon. Eh ben, donc à mon tour, je vais vous parler cette fois-ci du contenu du cahier des sciences infirmières. Alors moi aussi, je suis une vieille infirmière parce que j'ai connu toutes les générations. Ça a commencé par le cahier de l'infirmière. Après, j'ai connu les nouveaux cahiers de l'infirmière. Et maintenant, je dois dire l'honneur d'avoir pu travailler sur le cahier des sciences infirmières. Je suis arrivée à l'Institut Bergonié il y a 7 ans, après avoir eu un parcours assez varié. Et j'étais impressionnée de voir cette édition qui était déjà très riche et qui avait été largement menée par Madame Mortureux, qui était la directrice des soins et qui regrette de ne pas avoir pu être avec nous aujourd'hui. Donc c'était un très beau travail qui avait été fait par mes collègues cadres et puis aussi beaucoup d'infirmiers de l'Institut Bergonié. Et c'était la volonté du professeur Cantor que les cahiers des sciences infirmières restent au moins bordelais. Peut-être pas juste sur l'Institut Bergonié, mais au moins bordelais. Et en fait, il a permis à des médecins, des professionnels, des infirmiers, des soignants assez pluriprofessionnels de s'investir sur ce travail, donc des gens du CHU et de l'Institut Bergonié. Alors moi, quand je suis rentrée dans cette aventure, comme dirait ma fille, c'est pas la Star Academy, mais c'est une aventure quand même, eh bien, le programme était déjà finalisé, enfin la maquette était déjà finalisée avec les grandes lignes, tout simplement parce que c'était calqué sur le programme des IFSI. Donc de ce côté-là, il n'y avait finalement pas tellement de surprises. Et moi, j'ai un petit peu pris les choses en route à ce moment-là. Et avec Guy Cantor, en binôme, on a fait la totalité des relectures pour permettre de les uniformiser et de donner un ton qui soit homogène et qui donne l'impression, quand on regarde le livre, de quelque chose de cohérent et qui se lit... Je ne dirais pas comme un roman, il ne faut pas exagérer, hein, mais qui se lit quand même assez facilement. Donc, puis on a aussi chacun réalisé l'écriture de quelques chapitres. Alors, donc en fait, on a voulu donner une vision élargie de la profession, et c'est pour ça qu'on s'est adressé à plusieurs professionnels. Vous verrez dans les collaborateurs, il y a quand même une très très forte proportion de médecins, puisqu'ils sont 27, dont 12 professeurs en médecine. Il y a 14 soignants issus du corps infirmier, dont 10 médecins, une infirmière de bloc opératoire et 3 cadres de santé. 2 psychologues, 2 manipulateurs en électroradiologie, une assistante sociale, 2 diététiciennes, 1 kinésithérapeute et 1 socio-esthéticienne, ce qui fait en tout 50 collaborateurs. Et puis n'oublions pas une secrétaire médicale qui a permis de donner forme à l'ensemble et de reprendre, de tout mettre dans une maquette qui permette de l'envoyer à l'éditeur, et ce qui était aussi un travail assez colossal de pouvoir réunir tout ça. On en a fait une version qui a été envoyée à l'éditeur, qui a été corrigée par Léon Permuteur, votre papa. On a repris certaines choses, on a refait une lecture finale et enfin on est arrivé à ce cahier. Et je dois dire que tous les collaborateurs ont fait un travail remarquable qui permet de donner une vision complète de l'oncologie et des compétences qui sont associées. Et vous pourrez voir que dans cet ouvrage, on a choisi de le conclure par la recherche clinique et pas par les soins palliatifs, comme vous pourrez le voir dans la plupart des ouvrages qui traitent de l'oncologie, pour deux raisons. D'abord, parce que la recherche clinique, c'est quand même l'avenir, enfin l'évolution de la pathologie cancéreuse, en tout cas, c'est d'avancer et puis de trouver des nouveaux traitements. Donc les infirmiers sont aussi très impliqués, et donc c'est cette deuxième raison justement, c'est qu'on est là sur en fait un nouveau métier qui se dessine, parce que je peux d'ailleurs en parler, moi j'ai dans mon équipe, quand je suis arrivée j'avais une infirmière de recherche clinique, maintenant elles sont 6, et elles ont réellement des compétences très spécifiques liées à ces nouveaux traitements, à ces protocoles, à l'accompagnement des patients. Et là, même si c'est pas un métier qui est défini comme tel, c'est quand même quelque chose de très particulier qui nécessite une formation que nous on fait sur le terrain, mais donc qui est quand même quelque chose d'identifier. Et puis, alors ensuite, oui, la réforme de notre diplôme, qui est donc de 2009, nous introduit dans le processus LMD, et va vers de nouveaux métiers. Et ces nouveaux métiers, d'autres infirmiers ont travaillé aussi dans ce cahier, des infirmiers de coordination de soins, des infirmiers qui font de la consultation d'annonces, des infirmiers qui font de la coordination, j'ai déjà dit, du temps d'accompagnement soignant, et puis tous ces infirmiers qui apportent une plus-value réelle aux prises en charge des patients et qui sont aussi des nouveaux profils de soignants. Et d'ailleurs, Guy Cantor va vous parler tout à l'heure du master de coordination de soins, qui justement est un des axes d'évolution des métiers de l'infirmier. Alors vous verrez que ce livre, il est riche de notions de culture générale. Et il y a un des chapitres que j'apprécie beaucoup, qui est celui le cours de santé publique sur l'épidémiologie du cancer, sa prévention, son dépistage, et qui permet tout simplement de comprendre à la fois ce que c'est que la santé publique, mais aussi de comprendre ce que c'est qu'un plan cancer, et de comprendre donc les orientations du plan. Et après, de comprendre tout ce qui en découle. Et puis, il y a aussi des notions qui sont beaucoup plus pratico-pratiques. Il y a des petits tableaux, par exemple, sur le rôle infirmier face aux effets secondaires des patients suite au traitement de chimiothérapie, savoir repérer un effet secondaire, l'évaluer. Qu'est-ce que doit faire l'infirmière? Qu'est-ce qu'elle doit conseiller à son patient? Là, on est sur des choses qui sont tout simplement de terrain, qui sont du travail du quotidien. Des infirmières qui ont travaillé sur le cas clinique aplasie infirmière et l'aplasie médicale, l'aplasie fébrile, pardon, excusez-moi. Et voilà, donc tout ça, ça fait que finalement, c'est un ouvrage assez, assez riche qui regroupe à la fois des notions très générales, très globales, mais aussi des points très précis et qui sont de l'ordre de la pratique au quotidien. Voilà. Donc moi, en fait, je remercie M. Cantor de m'avoir donné cette opportunité parce que c'était pas... ça fait que 7 ans que je travaille en oncologie médicale. Et finalement, j'en garde un souvenir à la fois très épuisant parce que tout ce travail, il s'est fait, mais pour tous, il s'est fait sur le temps libre, à la maison, parce qu'on n'a pas de temps pour rédiger. Et d'ailleurs, quand on dit que c'est difficile de trouver des infirmiers qui veulent bien rédiger, oui, mais pourquoi? C'est parce que dans notre temps de travail infirmier, de toute façon, on n'a pas d'espace laissé à la réflexion. Tout ça, ça se fait à la maison, sur le temps libre, sur le volontariat. Et en fait, quand on a une famille, quand on a des enfants, c'est beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, je remercie mes enfants et mon mari de m'avoir supporté pendant tout ce temps où tous les week-ends, 14h-22h, je travaillais sur les cahiers des sciences infirmières, à relire, à écrire, à recommencer, à refaire, etc. Voilà. Et donc, je crois en tout cas qu'on a fait quelque chose qui est pas trop mal. C'est vrai que là, en regardant, j'ai vu une petite coquille, je me suis dit mince. Et puis c'est vrai aussi que je me dis qu'il y aurait peut-être d'autres situations cliniques qu'on pourrait détailler un peu plus, mais on peut toujours faire mieux, et s'il y a une prochaine édition, on essaiera de faire mieux. Voilà. Merci.
Alors, pourquoi Bordeaux fait un bouquin de référence nationale pour les infirmières, parce que les cahiers de l'infirmière, les cahiers des sciences infirmières maintenant, c'est quand même la référence nationale, c'est le bouquin de référence. Donc pourquoi Bordeaux? D'abord parce que Bernard Herny et puis Anne-Marie Mortureux et moi avions fait les cinq premières éditions, il y avait 15 contributeurs, ce qui était déjà beaucoup. Ils étaient pratiquement tous à Bergognier, donc c'était le fief qui s'était organisé pour être le plus performant possible, pour montrer comment on faisait au mieux dans une discipline précise comme la cancéro. C'était mené de manière un peu paramilitaire, comme l'était notre ancien directeur, très efficace, très précis et remarquablement bien fait. Ce que j'ai retenu, moi, au départ, c'est que c'était quand même... Il y avait des métiers qui étaient associés. Après, quand j'ai préparé la première liste des contributeurs, j'ai pris un soufflon par Valérie. Il n'est pas question qu'il n'y ait que des médecins, il y a trop de médecins, il n'y a pas assez d'infirmières. Moi, je lui ai dit, t'as qu'à les faire écrire, tes infirmières. Alors, elle l'a mal pris, mais c'était aussi la manière de dire qu'on était dans une recherche d'ouverture qui allait devenir compliquée à gérer. Et Bernard Herny m'avait dit, tu vas aux complications. Alors, je suis effectivement allé aux complications parce que j'ai perdu un an et demi sur la rédaction du manuel. Donc, on s'est fait aussi un peu... tiré par l'éditeur parce qu'on a raté une rentrée scolaire. Ça, nous, on n'avait pas imaginé ça. Mais pourquoi Bordeaux ? On a eu comme ça cette première idée qu'il y avait déjà une antériorité. La volonté d'ouverture et de sortir d'une seule institution était nécessaire. Et la deuxième chose qui était importante, c'était d'ouvrir le plus possible aux autres métiers du soin. Donc ça, c'était s'ouvrir à une deuxième difficulté. Il y a eu aussi un événement qui était très important, ça a été la mise en place par l'Université de Bordeaux de l'enseignement de l'ensemble des IFSI. Donc tout à coup, les IFSI n'étaient plus les seuls propriétaires de la formation des infirmières. Elles en gardent, et elles en gardaient très bien, cette magnifique échelle d'école professionnelle, et ça c'est une garantie de qualité qui est une grande valeur dans cette formation, comme nous on a les hôpitaux et l'université pour les carrières médicales, mais en même temps il y avait tout à coup l'université qui arrivait et qui devait organiser quelque chose de commun pour l'ensemble des IFSI de la région, avec cette volonté d'avoir un niveau universitaire et d'harmoniser. Donc on a eu la chance à Bordeaux d'avoir des enseignements qui étaient organisés par téléenseignement. Au départ, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc où des filles vont regarder à la télé des cours glaciaux faits sur un type qu'on voit en PowerPoint et qui ne peuvent pas marcher. Alors c'est la référence, c'est un document. Ils sont assez vivants. Ils sont plutôt bien faits. Moi, j'ai eu à coordonner l'UE cancéro qu'on appelle processus tumoraux. J'ai été très agréablement surpris par les collègues qui se sont tous pris au jeu, plus ou moins dans des délais parce qu'on est toujours à la bourre, donc on était dans cette difficulté. Mais on a quand même pu donner sur Apprends-toile, qui est le site de la fac, un système qui est disponible pour les élèves infirmières et infirmiers et qui correspond à des cours structurés. Donc on avait tout à coup dans le programme des enseignants qui avaient déjà fait la maquette du cours avec les pathologies, les références, le contenu qu'il fallait. Donc après, il fallait essayer de se demander comment on pouvait faire au mieux pour définir le niveau. Et là, c'est comme un équilibre, quoi. Alors ici, c'est, je sais pas, ça tu connais pas encore. Quand tu vas découvrir, tu vas t'apercevoir que c'est une magnifique construction humaine. C'est l'assemblage. Ici, tu prends un bout d'une vigne, un autre bout d'une vigne, un troisième bout, tu le mélanges et tu fais le bout. C'est très compliqué. Donc l'assemblage et le niveau, c'est où est-ce jusqu'où tu vas régler ton niveau pour que le document soit cohérent là où tu as voulu le faire. Donc nous, on s'est dit, on met la barre plutôt haut que cahier à spirale à 12 euros. Où tu apprends ta fiche, tu passes ton contrôle de continu et tu passes à la matière suivante. On s'est volontairement dit, montons un peu en niveau sur un projet plus ambitieux. On avait le matériel pédagogique qui était bien, des enseignants qui ont tous joué le jeu, donc ça c'était un capital formidable pour aller un peu plus loin dans un bouquin. Après, il suffisait de leur demander et puis de leur faire respecter les délais. Alors ça, c'est moi qui l'ai assumé, plus que Valérie, parce qu'il faut quand même un peu de temps en temps pousser. Enfin, tu connais cette difficulté de l'édition. Et là où je pense qu'on a à peu près réussi, mais où en même temps on prend un risque, c'est de ne pas jouer la logique du cahier à spirale. C'est-à-dire de dire, on fait un document qui correspond à l'historique de ces cahiers, qui correspond à une référence qui peut permettre d'aller plus loin. Donc, si le manuel et si le programme fait 30 pages, on va plutôt mettre 40 pages. Et dans les 10 pages qui vont suivre, ils le prendront s'ils veulent. Ça ne coûtera pas beaucoup plus cher, mais c'est présent si on veut passer au M ou au D. La deuxième chose, c'était de rajouter des choses qui étaient cohérentes par rapport à l'évolution du plan cancer. Donc, il y avait les nouveaux métiers, avec l'infirmière de coordination, l'infirmière clinicienne, toutes ces choses qui sont maintenant en projet, mais aussi avec l'infirmière d'annonce, le rôle du temps d'accompagnement soignant, comment on explique un diagnostic, comment on va rentrer dans ces perspectives d'ouverture et de changement de métier. Et là, on s'est dit, au lieu de repartir sur les cas cliniques, on va partir sur l'infirmière ou l'infirmier de consultation d'annonce qui va dire comment, après que le malade ait connu son diagnostic, ou sa révolution, ou sa rechute, qu'est-ce qui va lui arriver et comment on lui explique ce qui va lui arriver. Et donc l'observation clinique, elle est traduite par un soignant, le plus souvent un infirmier, parfois un manip radio, qui va expliquer la démarche. Donc ces situations de cas cliniques, on les a volontairement ciblées comme ça. Après, on a rentré des données qui étaient assez ludiques sur les moyens d'évaluation. On a donné des clés de lecture de QCM pour dire si vous passez un contrôle, voilà là où on vous attend et on ne vous attend pas. Et donc on a volontairement changé un peu l'état d'esprit du bouquin. On pouvait, puisqu'on était dans un programme qui était relativement homogène et facile à faire. Et après, ça permet aussi de commencer à réfléchir sur l'évolution du métier. Alors, il y a les métiers maintenant, il y a le coaching infirmier, il y a la coordination infirmière, il y a les conseils en soins infirmiers. C'est des métiers en haut, un peu plus transversaux que ce qu'on imaginait. Je l'ai vu dans le programme là, que tu m'as montré tout à l'heure, qui montre qu'il y a une part propre du métier, une responsabilité propre du métier, qui s'appelle authentiquement science infirmière et qui ne peut pas être fait par quelqu'un d'autre que quelqu'un qui est dans une logique de soins appliquée dans un domaine de science, enfin de soins infirmiers. Donc là, moi, j'ai compris à partir de là, à partir de l'échange aussi des textes, qu'il y avait des sciences infirmières. Et je pense que le titre « Cahier des sciences infirmières » est justifié. Qu'après, il y avait une évolution qui était une opportunité pour le métier, qui était la licence LMD. Donc une fois que tu as le L, tu as le M. Donc le M, c'est juste une question de faire un programme, de trouver les moyens d'adapter des plans de formation pour que des gens y adhèrent, et puis d'être dans une logique d'un contenu qui est un contenu de sciences infirmières. Là aussi, les infirmières, elles ne peuvent pas vivre toutes seules. Donc qu'elles aient aussi d'autres métiers de la santé qui soient appliqués, que cette formation puisse être commune et ouverte, c'était aussi un élément sur lequel on a eu beaucoup de réflexions. Alors, les premières présentations, il y a un an, du master, c'était des séances de palabres. On les a vécues comme de la palabre. Et moi, j'ai dit à René, qui est un homme plus rationnel que moi, on va rentrer dans la palabre. Donc, on est rentré dans la palabre, en commençant par se faire engueuler. Vous ne comprenez rien, je ne vois pas pourquoi des médecins parleraient au nom des infirmières. On leur a dit, c'est pas notre cas, on vous parle en tant qu'universitaire. Le soin, on connaît un peu, on est dans ce monde, on est tous dans ce même monde. Donc là, après, il y a quand même eu une ouverture d'un dialogue de confiance, en particulier avec des directrices d'IFSI ou de coordination, qui ont un exercice professionnel et de la bouteille qui est largement comparable ou supérieur au nôtre, dans leur domaine. Donc l'idée, c'était d'avoir cette réflexion. Après, à l'université, on était quand même, nous aussi, dans une logique, c'est nous les universitaires, donc on a les moyens de vous apprendre des éléments dans le cadre d'un master qui s'ouvre à la recherche. Alors, c'est vrai, mais ce n'est pas complètement vrai, parce qu'on n'est pas non plus dans une égalité de monde, dans une logique uniquement d'enseignement et de transmission de savoir. Après, il y a les gens qui, connaissant les méthodes de recherche, et les outils de recherche, s'approprie le contenu. Et ça, c'est très caractéristique d'un certain nombre de gens. Je pense au métier de l'édition. Il y a aussi, bien sûr, le métier de la finance, la banque, où le fait d'avoir de l'argent te rend riche. Mais ce n'est pas pour ça que tu l'as gagné, cet argent. Je veux dire que l'attribution de l'outil de recherche, ça n'est pas la recherche. Et ça, c'est quand même très vrai sur l'ensemble des gens qui contribuent d'une manière formidable à la méthodologie de la recherche, mais qui ne sont pas non plus dans le cœur d'application de la recherche. Après, il y a les sciences humaines et sociales, parce qu'actuellement, une infirmière qui veut s'ouvrir à une attitude de recherche, elle ne peut le faire que dans les sciences de l'éducation, la psychologie, l'économie de la santé, le management, et elles sortent de leur domaine propre. Donc après, il fallait trouver... Et enfin, il y a les bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds, c'est l'agence qui représente l'administration, et aussi en région, comme partout, les conseils régionaux, qui sont aussi les responsables d'un certain mode de financement, et puis les établissements hospitaliers, comme les CHU, qui sont aussi les responsables et les tutelles des IFSI. Donc on s'est tous mis autour d'une table, Et je pense que l'idée, c'est bien sûr de mettre en place un programme de master, qui est un programme qui est une réflexion sur l'évolution des métiers du soin. On l'a limité, mais on l'a largement ouvert. C'est-à-dire que la cancéro, ce n'est pas différent de la cardio, ce n'est pas différent des troubles neurocognitifs. Ça regroupe un certain nombre de problématiques très générales de santé qui relèvent des pathologies chroniques, du vieillissement et des besoins actuels de santé publique en coordination des soins et en pratique des soins. Là aussi, la coordination, ce n'est pas la pratique. Donc on se retrouve aussi dans cette appropriation, je vais envoyer un tel à tel endroit, mais je ne sais pas ce qu'ils vont lui faire. Donc si on veut une prise en charge un peu globale de ce soin, il est nécessaire de faire fromage et dessert, c'est-à-dire coordination et pratique avancée. Après, par rapport à ce qui existait en France, c'était soit des outils méthodologiques, donc un peu trop limités à l'outil, soit des outils qui étaient, soit des thématiques qui étaient uniquement orientées sur de la cancéro, de la psychiatrie, des domaines métaboliques ou neurocognitifs. Donc l'idée, c'était un peu de faire tout en même temps. Il y a des problématiques communes, elles existent, donc on mélange l'ensemble des aspects. Alors ça a demandé beaucoup de discussions. C'était même, moi j'ai trouvé, c'était des discussions magnifiques. Alors même le titre, le titre, c'est important à titre. Hein. C'est comme une image, un truc, ça a un sens. Donc on s'est, du premier au dernier moment, même au début, on s'est dit on ne va pas parler du titre parce qu'on ne sait pas où on en est. Et à la fin, ça s'appelle soins et sciences infirmières, le soin au singulier, c'est-à-dire la problématique générale du soin, et pas les infirmières dans l'exécution de leur acte de soin. Donc on en est là, avec une réflexion que je trouve absolument intéressante et très riche, sur l'évolution de ce monde. Alors, le bouquin et la réflexion, on l'avait transmise à l'INCa, on l'a transmise à la région aussi, qui ont donné aussi des points de vue qui étaient tout à fait intéressants sur ce que ce type de choses peuvent apporter. Donc moi, je m'en suis un peu servi aussi sur un plan politique pour qu'on prenne conscience en même temps, dans notre évolution ensemble, de la réflexion sur l'évolution du monde de soins. L'évolution dans les équilibres qu'il y a, et la recherche d'équilibre, c'est vraiment cet assemblage. C'est-à-dire que tu ne vas pas mettre tout santé publique, tu ne vas pas mettre tout non plus sciences humaines et sociales, tu ne vas pas mettre tout non plus technique de soins. Il faut trouver l'équilibre là-dedans, dans les intervenants. Et puis, le fait que notre université se soit regroupée est aussi pour nous une magnifique opportunité, parce que tu as un gros collège qui est le collège sans collège sciences de la santé, qui regroupe les UFR médicales, les enseignements paramédicaux, la psycho, la pharmacie, l'endotologie. Et puis, tu as aussi un autre groupe qui est très important, qui est les sciences humaines et sociales. Et puis, enfin, il y a un groupe de droit sur lequel il y a des laboratoires d'accueil qui sont aussi extrêmement riches à Bordeaux. Donc, on peut bénéficier d'ensemble de sites d'accueil très orientés recherche. Donc, ce n'est pas uniquement un master professionnel, c'est un master professionnel et de recherche, en mettant aussi la barre un petit peu plus haut sans qu'on s'en rende compte, comme ça, si tu veux y accéder, tu vas dans les 10 pages suivantes, et qui te permettent d'avoir des sites intégrés de recherche qui sont disponibles à peu près partout. Donc, nous, ce qu'on a voulu, c'était ouvrir et regrouper, et ne pas avoir de particularité de l'un par rapport à l'autre. Je suis absolument persuadé que les cardiologues, les endocrinologues, les réanimateurs, les gens dans les groupes d'algologie ont des problématiques qui sont assez proches des cancérologues sur l'identification, l'évaluation, la culture qualité, et puis ensuite l'évaluation des conséquences sur les personnes traitées, en particulier sur les pertes d'autonomie, les risques, la vulnérabilité. Alors cet équilibre, je pense qu'il a un sens, et je pense qu'ici, on a la chance de pouvoir le développer. L'enjeu M, c'est-à-dire master, il correspond à une ouverture possible pour les infirmières et les infirmiers, pour tous les professionnels de santé qui peuvent aussi y être impliqués, parce qu'ils vont aussi les initier à une formation qui est plus importante sur le plan général, et puis il va leur permettre après de passer le doctorat. Donc une fois qu'il y aura des docteurs ou des doctoresses, enfin je sais pas comment on dit, enfin des gens qui sont docteurs en sciences infirmières, ils seront plus en sciences de l'éducation, ils seront docteurs en sciences infirmières dans leur cœur métier, et ils seront à parité avec les docteurs en médecine. Ils ont le même diplôme universitaire ou un diplôme qui est un diplôme universitaire, et ils parlent en toute liberté de leur domaine, qui est un domaine spécifique. Je crois qu'il n'y a pas de spécificité entre les différentes pathologies, si ce n'est des aspects techniques ou des variétés, mais qu'il y a quand même des spécificités entre les sciences médicales et les sciences infirmières. La décision médicale, elle appartient aux médecins, c'est heureusement. La décision de la prise en charge d'un soin, au sens très général du terme, elle appartient aux gens qui maîtrisent les sciences infirmières. Elle n'appartient pas aux méthodologistes, aux biologistes, aux médecins, où elle leur appartient en propre. Alors c'est un pari un peu sur l'avenir, c'est-à-dire qu'on part de la licence, donc c'est ça, on est maintenant au master, après il y a juste un peu de difficultés à obtenir, c'est-à-dire se faire bananer au master parce qu'il ne va pas correspondre au niveau économique de valorisation auquel les gens peuvent avoir droit, parce qu'il y aura nécessairement des résistances professionnelles catégorielles de tout le monde. Ce n'est pas très grave, parce que de toute façon, la pression sociale et de société va l'emporter. On va demander aux infirmières d'être quand même pas uniquement des filles qui font la piqûre, le pansement. Il y a une prise en charge, une évolution du soin qui est une évolution de réflexion magnifique. Donc ça, on y arrive. Et puis on arrivera ensuite en Aquitaine, comme dans toutes les régions, à un groupe qui va commencer à devenir réel, avec 10 docteurs en sciences infirmières. C'est quoi les sciences infirmières? C'est les sciences infirmières, ça existe. Et c'est un peu cet objectif qui est qu'on part de l'excellence du bouquin de Perlet-Mutter pour arriver ensuite à un projet universitaire structuré avec des groupes professionnels mélangés, des pathologies mélangées. C'est peut-être ça là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le fait, le concept de processus. Parce que le concept de processus, il ouvre quand même un peu plus sur une harmonisation des pathologies. Peut-être qu'au niveau infirmier, ça a peut-être un sens que les prises en charge soient peut-être prises en charge sur des niveaux de pathologies, comme par exemple l'urgence, la vulnérabilité, la réa, la chronicité. Et ce concept de processus, il ouvre peut-être un peu plus. J'en sais rien, je n'ai pas encore réfléchi à... Mais je pense que c'est quand même dans cette volonté que ça avait été construit au départ. Ce n'est peut-être pas forcément efficace. Voilà un petit peu l'hypothèse. Donc c'est un enjeu qui est à la fois très sérieux sur le plan pédagogique, et c'est aussi pour nous l'occasion de remercier les gens qui y ont travaillé, parce que nous, on y a passé quelques week-ends, mais eux aussi... Et ils se sont retrouvés dans la feuille blanche, quoi. Et ça, c'est vraiment dur, la feuille blanche, surtout quand c'est pas du tout ton domaine. Donc nous, après, on les a rassurés. Valérie était extrêmement bienveillante dans les corrections. Moi, je l'étais moins avec Valérie, donc on arrivait à jouer le jeu, tu vois. Mais dans les re-rédactions, les réapprentissages, oui, tu as 15 pages, il y a 14 pages qu'il faut refaire. Bon, tu refais les 14 pages, le document en fait 3, il est beaucoup plus harmonieux, tout le monde est content. Mais ça, c'est du temps. Donc, ce travail aussi feuille blanche, il a une réalité. Donc, ça, c'est aussi un temps important, c'est de remercier tous ceux qui ont galéré sur les feuilles blanches, qui sont contents de voir un truc. Ils l'ont tous reçu de l'éditeur. Ça a été une exigence qu'on a eue de leur part. Et à part une qui a été oubliée, tous les autres l'ont reçu. Donc, ils ont reçu chez eux, à leur domicile, le bouquin, pendant les vacances. Et ça, c'est très, très bien. C'est très, très bien. Donc là, l'objectif maintenant, c'est un objectif dans une université où il y a une réflexion, puis il y a une table ronde quand même qui s'est bien organisée. L'agence y a joué, la région y a joué, les IFSI y ont joué, l'université y a joué. Donc, et puis il y a quand même aussi un temps, c'est qu'on a eu plaisir à se retrouver. Une fois qu'on a fini ce temps de palabre, qui est un temps, je crois, structurellement majeur, et qu'on a pu organiser des recherches. Une fois que tu as assemblé ton truc, tu laisses un peu mûrir. Je t'assure que ça, c'est une règle du vin aussi. Ça mûrit bien. Ça mûrit bien. Alors, on en est là. Est-ce que le master va aboutir? Est-ce qu'il sera reconnu du ministère? Puis ensuite, Est-ce qu'on va à l'école doctorale? Avec qui? Comment on fait? Et comment on produit à Bordeaux, dans 4, 5 ans, 6 ans, une première doctoresse, puis une deuxième, une troisième, puis après ça monte. Il faut être un peu tenace, quoi. Alors il y a des grandes écoles de sciences infirmières. Il y a toujours ces écoles canadiennes, qui sont vraiment actuellement la référence. Elles sont magnifiques. Il y a aussi les écoles suisses, avec aussi une culture du soin en Suisse, en particulier en Suisse calviniste, qui est absolument admirable et qui est d'une très grande liberté de pensée. Il y a des écoles françaises qui sont encore existantes, qui viennent beaucoup des IFSI. Mais je crois que là, on a la chance, en France, d'arriver à un système qui va être un système un peu plus autonome, un peu plus laïque, je le dis librement, que les écoles canadiennes, qui sont quand même encore dans une logique très confessionnelle, et qui ont encore des références qui sont encore très sur... j'avais un patron en radio au bâtiment, là, il disait le bâtiment Vincent de Paul. Je disais non, c'est Saint-Vincent de Paul. Vincent de Paul. Et le type avait fait à l'époque les salles à salper. Tu verras, c'est marqué Vincent de Paul. C'est-à-dire que dans son idéologie, il voulait absolument rester dans une logique laïque. Et ça, je crois que c'est un enjeu absolument majeur aussi. Si on a un doctorat en sciences infirmières avec des écoles françaises qui vont être en compétition, en concurrence, on sera aussi dans l'évolution de ce monde du soin qui va être un monde qui va nécessairement aussi se centrer sur des valeurs de laïcité, comme l'université française le défend avec beaucoup de force. Alors, ben voilà, moi, c'était un petit peu... Pour moi, cette découverte du monde du soin, elle n'est pas récente. Elle date de 1970-69. Elle est, à mon sens, absolument fondamentale sur l'existence de ce travail à poursuivre. Il y a plus d'infirmières en France ou d'infirmiers en France que de médecins, ou de femmes médecins, parce que maintenant, il y a plus de femmes médecins que d'hommes médecins. Il y a un groupe professionnel qui a des difficultés à s'autonomiser, même malgré son nombre, parce qu'ils n'ont pas encore les moyens d'arriver à cette logique LMD, qui est leur solution. Je crois aussi que cette reconnaissance universitaire, en terrain comme on l'est là, nous permettra aussi de défendre des valeurs propres. Il y a des écoles qui ont des cultures, des histoires différentes. Si on arrive à les mélanger ensemble, à les assembler, comme des bons bordelais, eh ben on va arriver à un truc absolument épatant. Voilà, moi je suis assez enthousiaste pour ce type d'enjeu. J'ai travaillé pendant plusieurs décennies dans des secteurs hospitaliers, dans des salles d'hospitalisation. J'ai aussi un engagement médico-technique fort. J'ai un enjeu culturel fort sur ce domaine. Et je suis absolument persuadé qu'on est en train, si on prend bien cette opportunité, de mettre en place un enjeu qui est un enjeu qui va être très important pour l'ensemble du monde du soin. Tout le monde y trouvera son compte. Les médecins, qui auront nécessairement des collègues, enfin des gens avec qui ils auront un partage de travail qui sera assez différent, mais qui sera beaucoup plus en confiance du fait de la qualité de ces personnes. Des écoles qui pourront les former avec un double langage professionnel et universitaire. Et que tout ça ne peut que contribuer à améliorer largement le niveau de l'ensemble des professions de santé. Voilà, je vous remercie.